Donc ce matin, on va parler de quelqu'un qui était riche, le jeune homme riche, un texte dans l'évangile de Marc. Donc Marc, Matthieu et Luc ont repris cette histoire-là de Jésus, histoire réelle, hein, c'est pas du jeune homme riche qui est allé vers Jésus. Et le jeune homme riche, il avait peur de manquer la vie éternelle. Hein. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Donc il est allé voir Jésus pour savoir c'est quoi. Et on va parler aujourd'hui de la peur de manquer. Un phénomène qu'on a aujourd'hui, en plus avec les réseaux sociaux et avec l'inflation, on a toujours peur de manquer quelque chose. Et vous vous souvenez sans doute, il y a 3 ans, au début de la pandémie, les gens avaient peur de manquer de quelque chose. Ils sont garochés au magasin, c'était quoi? Le papier hygiénique, c'est ça. C'est toute une affaire. Hey, si on avait manqué de ça, on aurait pu mourir toute la gang. Donc, ça reflète notre confort nord-américain que c'est vraiment tout ça, il faut vraiment qu'il ne manque absolument rien. Et il y a des pays où ils ne connaissent même pas ça, le papier hygiénique. Ensuite, avec les nouvelles technologies branchées aujourd'hui, on a toujours peur de manquer la dernière nouvelle sur les réseaux sociaux ou même dans les médias, sur Facebook, Instagram. Et on a aussi peur de manquer de reconnaissance. Est-ce que je vais avoir suffisamment de j'aime ou de like? Et il y a un syndrome, nouveau syndrome qui est apparu avec les réseaux sociaux. Ils appellent ça le syndrome FOMO. F-O-M-O. Mais ça vient de l'anglais, là. Ça veut dire Fear of Missing Out. Donc, peur de manquer quelque chose. Le syndrome FOMO, qui est un nouveau syndrome qui n'existait pas avant. Donc, peur de rater quelque chose. Et aujourd'hui, on a peur de manquer d'argent, de nourriture à cause de l'augmentation du coût de la vie, peur de manquer de logement, peur de ne pas avoir assez d'argent pour la retraite. On a beaucoup de peur. Et ce matin, on va regarder justement le jeune homme riche qui avait peur de rater la vie éternelle, mais qui en même temps, il avait peur de ne pas profiter de ses richesses, de tout ce qu'il avait sur la terre, de sa sécurité. Et il y a eu à faire un choix entre les deux. Donc, si vous voulez, on va prier avant d'aller plus loin. Notre grand Dieu, on te remercie pour le privilège qu'on a de se réunir et d'ouvrir ta parole en toute sécurité. Et Seigneur, merci pour ce privilège quand on voit qu'il y a des églises qui sont brûlées actuellement au Pakistan. Et Seigneur, je te prie qu'on puisse en profiter, Seigneur, pour scruter dans ta parole et voir ce que tu as à nous dire, chacun de nous, pas l'autre à côté de nous ou l'autre en avant, mais chacun de nous personnellement, Seigneur. Je te prie de toucher nos cœurs et de m'utiliser, Seigneur, et que ce soit ta parole qui parle et non moi, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons lire le Marc chapitre 10, versets 17 à 31. On va y aller verset par verset. Donc, le premier verset, qui est le verset 17, « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui dit-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Donc, ici, c'est quelqu'un qui a posé la question la plus importante, la question la plus importante qu'on peut poser dans notre vie, « Quoi faire pour avoir la vie éternelle? Dieu, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Et c'était vraiment important parce qu'il s'est mis à genoux devant Jésus. Imaginez-vous, vous êtes ici à l'accueil un dimanche matin, quelqu'un arrive, se met à genoux, « Ah! » Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Wow! C'est un contact. Il est vraiment ouvert à l'Évangile. Donc, la question cruciale qu'il faut poser, il ne faut pas passer à côté de la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Jésus a commencé par une question. Jésus a dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Hein? » Drôle de réponse de Jésus. Donc, si Jésus dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? » Il y a 2 choses qu'on peut voir de là. La première, c'est que, étant donné qu'il y a juste Dieu qui est bon, si tu m'appelles bon, ça veut dire que tu vois que je suis Dieu. Hein? Tu vois comme ça, hein? Il y a, tu m'appelles bon, donc tu penses probablement que je suis Dieu, puis tu es à genoux devant moi en plus. Donc, quelque chose qui dit là, ou qui parle à ton cœur comme de quoi je serais Dieu. Donc, tu m'appelles bon, il y a juste Dieu qui est bon, donc que tu n'aurais pas par hasard reconnu que je suis Dieu. Première chose. Et la deuxième chose, il n'y a de bon que Dieu seul. Ça veut dire que tous les autres en dehors de Dieu ne sont pas bons. OK? Et ça veut dire que tous les hommes sont méchants, sont pécheurs. Donc, en reconnaissant que moi je suis bon, ça veut dire que tous les autres, incluant toi, tu es pas bon. Donc, Jésus commençait par cette question-là à le faire réfléchir. Oups, ça se peut que je sois pécheur. Ah, peut-être. Commençait la réflexion. Et Jésus est allé plus loin. Donc, Jésus a continué sa réponse. Tu connais les commandements. Donc, c'est un juif qui connaissait les commandements. Donc, Jésus en a récité quelques-uns. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Donc, ici, c'était toutes des choses extérieures à faire ou à ne pas faire. Verset 20, il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Donc, ce n'est pas juste depuis avant-hier, c'est dès ma jeunesse, donc je suis comme correct, tu sais. Pas à partir de 20 ans, donc depuis que je suis tout jeune, là, j'ai toujours observé ces commandements-là. Okay? Donc, c'est un homme irréprochable quant au respect de la loi. Donc, d'après lui, il devrait avoir la vie éternelle, mais il ne manquait pas grand-chose. Tout ce qu'il voulait, c'est que Jésus lui dise, « Oui, tu as la vie éternelle, Jésus met ton étampe, continue ta vie comme ça. Ah, » il aurait été soulagé. « J'ai la vie éternelle, je peux profiter de ma vie, de ma richesse, mais je vais être sauvé au bout. » Ah, c'est ça qu'il voulait avoir, l'approbation de Jésus. Mais l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 3, il disait qu'il était irréprochable selon la justice de la loi. Mais il a dit ce qui était pour moi un gain, mais considéré comme une perte à cause de Jésus, à cause de Christ. Donc, la loi, on voit dans l'Épître de Romains, c'était comme un pédagogue, ou dans Galates, je crois, pour nous enseigner qu'on ne peut pas la respecter. La loi est là pour nous montrer qu'on va l'enfreindre d'une manière ou d'une autre. On n'est pas capable de la respecter, donc on a besoin d'un sauveur, de quelqu'un que lui, il a respecté, qui est mort à notre place sur la croix. Donc, c'était ça le but de la loi, d'être un enseignant ou un pédagogue. Mais pour les Juifs, ils n'avaient pas compris, la loi, pour eux, c'était le moyen d'avoir la vie éternelle. Donc, c'était ça pour le jeune homme riche, en suivant la loi. Puis Jésus venait de citer la loi, donc, « Oui, j'ai tout respecté ça, donc je vais être sauvé. » Mais pourquoi, s'il se considère irréprochable, pourquoi est-ce qu'il vient se mettre à genoux aux pieds de Jésus? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il y avait quelque chose en lui qui lui disait, peut-être pas si parfait que ça, peut-être qu'il n'y avait pas la paix. Il n'y avait pas la paix dans sa religion. Et lorsqu'on pratique une religion, on n'est jamais certain d'avoir la paix, jamais certain d'être sauvé. Peut-être que vous vous dites, moi, j'ai une religion, je ne fais pas de mal à personne, je crois en Dieu. Je suis charitable, j'ai le cœur sous la main. Quand je dis ça, je pense à ma mère qui était une personne qui était très, très, très religieuse. Qui était une super de bonne personne. Il faudrait rougir plusieurs chrétiens, dont moi aussi, parce qu'elle était vraiment dévouée à tout le monde. Mais elle n'avait pas besoin de Jésus. Puis elle est décédée sans Jésus, malheureusement. Donc, elle n'a jamais demandé « Est-ce qu'il me manque quelque chose? » Quand on lui parlait de Jésus, elle disait qu'elle l'avait. Et on voyait dans son... Malgré toutes ses donations, tout ce qu'elle faisait, qu'il y avait quand même un orgueil qui était là encore, que Jésus n'avait pas la première place dans sa vie. Ici, Jésus a cité une partie de la loi qui se retrouve dans Exode chapitre 20, mais il a omis une partie dont un verset qui est « Tu n'auras pas... » d'autres dieux devant ma face. Donc, la loi commence avec ça. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face, donc tu n'auras pas d'idole dans ta vie. Et Jésus ne l'a pas mentionné ici. Il a juste mentionné des choses qu'il pouvait faire extérieurement. Mais Jésus n'a pas dit au jeune homme riche, « Oups, j'ai oublié un verset, t'en rappelles-tu? » Non. Mais Jésus lui a proposé un défi pour voir s'il y avait d'autres dieux dans sa vie. pour le faire ressortir, le faire réaliser. Parce qu'il avait dit, est-ce que tu as d'autres dieux devant la face? Non, non, non. Non, non, je respecte ça. Mais Jésus voulait lui faire réaliser. Donc, lui, il était irréprochable au niveau de l'extérieur en vertu de la loi, mais Jésus voit plus loin que les apparences. Il voulait faire ressortir ça, il voulait faire ressortir les motivations de son cœur. Donc, il lui lance un défi pour voir c'est quoi sa position par rapport à sa relation avec Dieu. Quel est ton Dieu? Quel est ton vrai Dieu? Nous continuons. Verset 21. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Excusez-moi. Ici, ça me fait drôle. Ces quatre mots-là. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Comment Marc a fait pour voir dans le regard de Jésus qu'il l'aimait, qu'il a pris la peine de l'écrire? Hein? Jésus n'a pas dit « je t'aime » ou comme dans Jean 3, 16, « car Dieu a tant aimé le monde ». Non, Jésus l'a juste regardé et les gens qui étaient là ont vu qu'il y avait un amour, une compassion tellement grande que ça avait la peine de le dire. Donc, dans son non-verbal, Jésus a démontré l'amour pour ce jeune homme-là. Okay? Et si Jésus aima ce jeune homme-là, Jésus aussi, il vous aime autant. Son amour n'est pas partagé, mais il nous aime autant. Donc, Jésus l'a regardé, il l'aima. Ensuite, il lui dit, il te manque. Donc, si on reparle de ce matin, une chose qui nous manque, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Une chose. Donc, lui, il lui manquait rien sur la terre parce qu'il était très, très, très riche au niveau matériel. Puis aussi, il lui manquait rien au niveau spirituel parce qu'il respectait la loi de façon intégral, il était irréprochable en vertu de la loi. Mais Jésus voulait savoir ce qu'il y avait vraiment dans son cœur. Il te manque une chose pour avoir la vie éternelle. Ah oui? Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Oh boy! Ça veut dire quoi? Tu n'auras plus ta sécurité, ton confort. Tout ce que tu crois qui peut te donner le bonheur sur la terre, tu vas le vendre, tu vas donner l'argent aux pauvres. Tout ce qui vient avant Dieu dans ta vie, il faut que tu t'en débarrasses. Et en plus, tu vas devenir pauvre à ton tour. Tu donnes ton argent aux pauvres, tu vas devenir pauvre, tu n'auras plus une scène. Tu ne gardes rien au cas où, là. Tu me suis, puis moi, je vais m'assurer de ta sécurité, puis tu manqueras de rien. Est-ce que Jésus, il veut qu'on soit malheureux? Qu'est-ce qu'il proposait là au jeune homme, là? C'était quelque chose, hein? Est-ce que Jésus veut qu'on soit malheureux? Est-ce que Jésus veut qu'on souffre? On dit, j'ai tellement souffert pour toi, Jésus, que j'ai mérité mon ciel. Jésus, il désire qu'on trouve, il veut qu'on soit heureux, mais il veut qu'on trouve le bonheur à la bonne place. Il veut qu'on nous donne le bonheur sur terre, avec notre intimité avec lui, mais il veut aussi nous donner la vie éternelle, qu'est-ce qui est le plus important. Donc, Jésus ne veut pas qu'on trouve le plaisir dans le matériel, même dans le péché, mais il veut qu'on trouve notre plaisir en lui. Une citation ici de M. David Platt dans son livre « Suis-moi ». Donc, il y a le titre qui vient du verset-là, « Suis-moi ». Quand Jésus transforme nos désirs, nous prenons conscience que si nous avons des problèmes avec le péché, ce n'est pas parce que nous recherchons trop le plaisir, mais plutôt parce que nous ne le recherchons pas assez. Dans le fond, comme le dit souvent John Piper, il faut rechercher notre plaisir en Jésus et notre plus grand plaisir est en lui. Et lorsqu'on cherche notre plaisir dans les choses de la terre, qui souvent peuvent être péchés, on recherche le plaisir dans des choses secondaires, au lieu de les chercher dans les choses principales, dans la personne principale qui est en Jésus. Donc, notre problème, c'est qu'on ne recherche pas assez de plaisir. Okay? Et nous lisons dans le psaume 4, versets 7 et 8. Ils sont nombreux ceux qui demandent d'où nous viendra le bonheur. Vous avez entendu ça, la chanson « Il est où le bonheur, il est là ?» Donc, il est où le bonheur ? Et combien il y en a qui cherchent le bonheur ? Ils vont des chants, faites un monologue sur le bonheur. Quand ils ont un endroit, quand le bonheur a passé, eux, ils n'étaient pas là. Ils ont été malheureux toute leur vie. Donc, il a personnifié le bonheur, comme les proverbes personnifient la sagesse. Donc, qui D'où nous viendra le bonheur? On cherche tous le bonheur, on cherche tous à être heureux. Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable. Le bonheur, il vient de lui. Que notre vie en soit illuminée. Et dans d'autres versions, ça fait briller sur nous la lumière de ta face. Verset 8, tu mets dans nos cœurs de la joie. On a le bonheur ici. Plus qu'ils n'en ont jamais quand leur moisson abonde et quand leur vin nouveau coule. Donc, la moisson abonde, c'est beaucoup de revenus, beaucoup de nourriture, beaucoup de sécurité. Et le vin nouveau coule, bon, c'est le party. T'sais, on prend du vin, bon, on a de la joie. Et j'ai connu ça, la joie qu'offrait la boisson. C'est sûr qu'on avait du plaisir. Mais la joie qu'offre Jésus, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Et je regarde toutes ces choses-là, comme disait Paul, comme de la boue comparée à la joie que peut nous donner le salut en Jésus et la personne de Jésus dans notre intimité avec lui. Donc, oui, le bonheur, il est là en Jésus. Est-ce que c'est péché d'être riche? Jésus n'a pas dit, ah, ton péché, t'es trop riche. C'est pas péché d'être riche à condition, ça dépend qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on y est attaché? Si c'est ça, mon Dieu et ma sécurité, où je suis, vous avez entendu parler de Séraphin, là, les plus vieux, là. Donc il était attaché à ça. Et on appelait ça l'homme et son péché, c'était l'avarice. Mais aussi, sans être nécessairement avarice, ou vouloir accumuler, on en veut de l'argent parce qu'on veut du confort, on veut du matériel, on veut être quelqu'un dans la vie, on veut avoir l'air important. Dans le psaume 62, verset 11, on peut lire, « Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. » Ah, donc ça veut dire que quelqu'un peut avoir des richesses, mais l'important, c'est que son cœur ne soit pas attaché. Et on a un exemple, un chrétien, un monsieur Letourneau, aux États-Unis, il a inventé plusieurs machineries lourdes, des grosses machines, là, des dizaines, et il était multimillionnaire, M. Letourneau, et il donnait 90 % de ses revenus, il vivait avec 10 %. Donc, il vivait avec la dîme, il donnait 90 %. Donc, le Seigneur a permis qu'il soit riche, mais il a donné à l'œuvre du Seigneur 90 % de tous ses millions, et peut-être même ses milliards. Si le jeune homme riche avait vendu tous ses biens, il avait donné aux pauvres, est-ce qu'il aurait eu la vie éternelle? C'est pas assez. Parce que dans 1 Corinthiens 13, Paul dit que je peux distribuer tous mes biens pour les pauvres, pour la nourriture des pauvres, puis comment c'est écrit? Et ne pas être sauvé si j'ai pas l'amour qui vient de Dieu. Donc, ce n'est pas le fait de distribuer nos biens, d'être généreux, qui nous sauve. Oui, c'est une chose. Qu'est-ce qui nous sauve? Ce n'est pas une chose, mais c'est une personne. C'est pour ça que Jésus a dit, « Suis-moi. » Ah, là, il a fermé la boucle. Là. Le plus important, « Suis-moi. » Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas une chose que je dois faire, mais c'est une personne que je dois suivre. Donc, mon plus grand besoin, ce n'est pas quelque chose. C'est une personne, c'est quelqu'un. C'est Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, « Suis-moi. » Le jeune homme riche avait demandé, « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Jésus aurait pu dire, « Suis-moi, c'est moi la vie éternelle. » C'est tout. Donc, le jeune homme n'aurait peut-être pas compris tout de suite. Mais Jésus a pris plus de temps afin de lui expliquer des choses, afin de lui faire réaliser qu'est-ce qu'il y avait vraiment dans son cœur. Et le jeune homme riche a demandé ça à la bonne personne. Parce que Jésus était et la vie éternelle. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 5, « C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. » Donc la vie éternelle, en plus d'être en lui, c'est lui la vie éternelle. Donc oui, il avait demandé à la bonne personne. C'est pour ça que je disais, ce n'est pas une religion qui sauve, c'est une personne. Et dans Jean 10, nous lisons aussi, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Donc, les brebis vont suivre Jésus. Est-ce qu'on est des suiveux? Hein? Si on suit Jésus, on est une gang de suiveux, dans le fond. Mais l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, il disait, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Donc, Paul est un suiveux de Jésus. Il dit, « Imitez-moi. » Ouais. Donc, on est une gang de suiveux. Mais, Si on ne suit pas Jésus, qui est-ce qu'on suit? Parce que Jésus a dit, on ne peut pas avoir deux maîtres. On ne peut pas avoir deux maîtres. Donc, si on ne suit pas Jésus, on suit Mammon, le prince de ce monde. La réaction du jeune homme. Le jeune homme n'a pas dit, « Cool, tu l'as l'affaire, Jésus. Hey, je vais donner tous mes biens. » Puis il va faire du monde heureux, ils vont être reconnaissants, puis je vais avoir la vie éternelle en te suivant. Wow! Je n'avais pas pensé. C'est pas ça qu'il a dit. C'est ça qu'il aurait dû dire. Hein? Au verset 22, « Mais, affligé de cette parole, oh boy, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » Donc lui, il n'a pas trouvé la joie en Jésus. Il avait de grands biens, affligé. Il avait sans doute pensé, ouais, mais c'est pas à ça que je m'attendais là, tu sais, c'est Jésus, là, m'en demande bien trop. Pourtant, je suis irréprochable. Je te l'ai dit, puis tu m'as pas contredit quand j'ai dit, là, que j'ai observé tout ça de ma jeunesse. En plus, je suis riche. Une parenthèse que je fais. Pour les Juifs, quand tu étais riche, c'est un signe de bénédiction de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les gens qui obéissaient à Dieu, étaient bénis matériellement. Et c'est pour ça que lorsque Job, le diable a tué ses enfants, il a détruit sa santé, il a enlevé tous ses biens, quand ses amis sont venus le voir, ils ont dit « Confesse tes péchés, donne gloire à Dieu, c'est à cause d'un péché que tu es malade, que tu es rendu pauvre. » Donc, le fait d'être pauvre, ça montrait qu'on n'était pas béni de Dieu, qu'il pouvait avoir du péché dans notre vie. Donc, les gens qui étaient opulents, qui étaient riches, étaient censés être bénis de Dieu à cause de la bénis matériellement, mais c'est parce qu'ils étaient des bonnes personnes. Okay? Donc, le fait qu'on soit des bonnes personnes, ça fait qu'on est plus riche. Donc, irréprochable quant à la loi, riche, donc super de bonnes personnes, je devrais être un des premiers à entrer au ciel. Puis là, non, c'est pas ça. Lui, il pensait qu'il ne manquait pas grand-chose. Là. Il voulait juste être sûr que Jésus lui confirme qu'il était correct. Il était riche selon la loi, mais son amour pour les richesses dépassait son amour pour son prochain, son amour pour Dieu. Il avait fermé son cœur aux démunis. Et Jésus lui a envoyé ce défi-là pour montrer ce qu'il y avait dans son cœur. Et il n'a pas passé le test. Donc, ça a révélé où était son cœur, où était sa sécurité. Un commentaire ici. Les péchés grossiers, donc les péchés qu'on considère graves, là, les péchés sont graves, mais il y en a qu'on considère pire que d'autres, et les prétentions humaines, c'est-à-dire notre orgueil, donc les choses qui ne sont pas belles, ne sont pas seules à priver l'homme du salut que le Seigneur lui offre et l'empêcher de le suivre ici-bas. Ce récit, en parlant du récit du jeune homme riche, nous fait voir que les biens de la terre possédés par un homme d'une conduite irréprochable constituent un grand obstacle au salut. Donc, un homme irréprochable, riche, mais pour lui, c'était comme un obstacle là, à venir à Jésus. Et on voit dans les endroits où les gens sont plus pauvres, on dirait que c'est plus facile de venir à Jésus. Et plus on est dans une société où il y a de la richesse, comme en Amérique du Nord, en Occident, on dirait que plus les gens ont la difficulté à venir à Jésus parce qu'ils voient, parce qu'ils trouvent leur sécurité là-dedans. Et on a tous besoin de sécurité. On la trouve en Jésus ou dans les biens matériels ou dans les plaisirs sur terre. Donc, nos propres efforts, notre religion, ne peuvent pas nous donner la vie éternelle. Donc, le jeune homme, il a préféré renoncer à son trésor dans le ciel pour garder celui sur la terre. Parce qu'on dit, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. La richesse, il l'avait. Probablement, c'était des terres, de l'or, des choses comme ça. Et donc, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Il l'avait, ça. Il le voyait. Un trésor dans le ciel, pour lui, c'était abstrait. Hein? Sur un trésor, c'était vraiment abstrait. Et vous connaissez le dicton, profitons de la vie parce qu'elle est courte. Et une personne qui est proche de moi, un homme qui il a vécu beaucoup de décès autour de lui, personnes qui sont mortes. Et au lieu de dire, oh, bah, il faudrait que je me prépare, il dit, dépêchons-nous d'en profiter parce que ça sera bon. On vit juste une fois. On vit juste une fois, il faut en profiter. Et il y a un autre phénomène. Je vous ai parlé tantôt du phénomène FOMO, là, peur de manquer quelque chose. Il y a un autre phénomène qui s'appelle le phénomène YOLO. C'est en anglais, c'est « You only live once ». Ça veut dire, c'est dur à lire, « You only live once », c'est-à-dire « Vous vivez seulement une fois ». Donc, c'est un dicton. « Vous vivez seulement une fois » et c'est utilisé dans la publicité. « Tu vis seulement une fois », bien, profites-en. Mais on a seulement une vie à vivre, profitons-en. C'est ça qu'on pense. Et si tu es YOLO, tu vas être aussi FOMO. N'oubliez pas ça. Ce que je veux dire, c'est que si tu penses que tu vas vivre juste une fois, après ça, c'est terminé, tu vas être FOMO dans le sens, tu vas avoir peur de manquer quelque chose. Tu vas vouloir en profiter. Donc, profiter de la vie au maximum parce qu'il n'y a pas d'autre chose après. OK? Donc, il ne faut pas rien que tu manques. Mais quand tu sais que tu as la vie éternelle, tu as un trésor au ciel, tu n'es pas angoissé ou anxieux de dire « il faut que je profite de tout, il faut que je manque de rien, tous les plaisirs. » Non, le meilleur est à venir. On va l'enlever pour vous distraire. Tiens. Qu'est-ce qui va manquer au jeune homme riche s'il vend tous ses biens? Ben, il n'y aura plus de beaux vêtements. Il n'y aura plus de belles maisons. Il n'y aura plus de nourriture en abondance, de meilleure qualité, il n'y aura plus de confort matériel. Son statut social va changer. Il sera plus riche, plus important. Il va devenir pauvre à son tour. Il n'y aura plus d'influence. Il n'y aura plus de prestige. Il n'y aura plus l'orgueil de la vie. Il va même être obligé de travailler plus fort. Il va perdre ses amis riches. Parce que les riches se tiennent avec les riches. Ils vont rire de lui. « Qu'est-ce que tu as fait là, d'homme fou? » Il va vivre l'incompréhension. La richesse lui permet aussi d'avoir le contrôle sur sa vie, le contrôle sur la vie des autres. Quand il a besoin de quelque chose, il ne regarde pas la dépense. C'est un problème. Puis sa richesse témoigne aux autres qu'il était une bonne personne, bénie de Dieu. S'il devient pauvre, ils vont soupçonner qu'il y a du péché dans sa vie. Donc, il va manquer de tout ça. Mais, qu'est-ce qui va manquer s'il refuse de suivre Jésus? La vie éternelle. Donc, tout ce que je viens de vous lister, ça fait quasiment mal au cœur à dire, oh, il perd ça. Mais s'il ne se débarrasse pas de ça et il ne suit pas Jésus, il manque le principal, la vie éternelle. Donc, le jeune homme riche n'avait pas de vision de ce qu'était vraiment la vie après la mort physique, la vie éternelle, le trésor que Jésus nous réserve. Et une citation ici, c'est Jocelyn qui l'a apportée il y a 2 semaines. Ça valait la peine de la ramener, je pense, parce que ça allait directement dans mon sujet. M. Jim Elliot, un missionnaire qui est mort, il s'est fait tuer, qui est un ancien missionnaire. Et lui, il avait dit, « Il n'est pas imbécile qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Donc, on pourrait dire, il est intelligent, celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder, en sachant que, en faisant ça, il va gagner quelque chose qu'il ne pourra jamais perdre. Donc, le jeune homme riche, il aurait été intelligent s'il avait donné tout ce qu'il ne pouvait pas garder, parce que dans le fond, il ne pourra pas garder ça, pour gagner qu'est-ce qu'il ne peut pas perdre, c'est-à-dire la vie éternelle. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui au jeune homme riche? Pendant sa vie, 60, 70, 80 ans, il a eu la richesse. Aujourd'hui, qu'est-ce qui lui reste? Plus de trésors sur la terre. Tout est pourri. Lui aussi, il est décédé. Au ciel, plus de trésor, il l'a refusé. À moins qu'il se soit converti plus tard, l'histoire ne le dit pas, on lui souhaite bien, mais s'il n'a pas changé pour suivre Jésus, il est perdu. Pour accepter le bonheur temporaire qu'il y avait sur la terre, il a renoncé au trésor éternel. Et il a avoir malheureusement la perdition éternelle. Un jour, on va parler de notre vie au passé. On dit, quand j'étais sur la terre, telle affaire. Pas loin, là, ça va venir. Là, on a des souvenirs 30, 40, 60 ans en arrière, pour les plus vieux. Et dans 60 ans, il y en a plusieurs qui ne sont plus ici. Donc, on va parler de la vie d'Église baptiste dans laquelle on est allé au passé. Donc, le problème du jeune homme riche, c'est qu'il ne faisait pas confiance en Jésus, en son amour et en sa bonté. Il ne faisait pas confiance que Jésus était capable de s'occuper de tous ses besoins matériels, que Jésus était capable de lui donner le vrai trésor au ciel. Il ne savait pas c'était quoi qu'il y avait au ciel. Il avait une mauvaise vision du bonheur éternel. Et pour lui, le prix du sacrifice demandé était trop important. Son trésor sur la terre était important aussi. Une petite gorge d'eau. J'ai lu un livre qui s'appelle « Génération smartphone ». Un croyant qui était accroché aux réseaux sociaux, qui l'utilise beaucoup d'ailleurs, et qui dit de ne pas se débarrasser de ça, mais l'utiliser de façon intelligente. Et dans son livre, il y a une citation ici, quelque chose que je voudrais vous citer. Il dit, « En dehors de Christ, il n'y a que destruction éternelle. » C'est pesant, ça, hein? « En dehors de Christ, il n'y a que destruction éternelle. » C'est la perdition en dehors de lui. L'homme riche, dans la parabole de Jésus, il aurait pu mettre l'histoire, c'est pas une parabole, c'est vraiment une histoire vraie, dépeint la plus grande tragédie de la vie. Un homme remplit ses poches, son ventre et sa vie de vains plaisirs. Il a acheté le vieux mensonge de Satan à Ève. Donc Satan a proposé à Ève de devenir comme des dieux. Un mensonge. Choisissant le chemin insensé de l'autosuffisance ignorante de Dieu. Donc mes richesses me rendent autosuffisant, j'ai besoin de rien. Je suis riche, je me suis enrichi. Sans jamais faire de Dieu son plus grand trésor. Donc son trésor n'était pas Dieu. Il a étouffé la réalité du jugement avec l'anesthésique de la complaisance et ce faisant, il s'est détruit pour l'éternité. Et beaucoup de gens qui étouffent la réalité du jugement par l'anesthésique. Ça peut être les plaisirs, les voyages, il y en a qui trippent là-dessus, c'est pas mauvais. Mais ça ne doit pas être ça qui nous fait oublier la réalité du jugement. Ça s'en vient. Et ils se détruisent eux-mêmes pour l'éternité. Nous lisons aussi dans 2 Corinthiens 4, 18, nous ne portons pas attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. Donc tout ce qu'on voit actuellement, ça va disparaître, ça va être détruit, ça dure un temps. Mais les choses invisibles demeurent éternellement. Et aujourd'hui, à un moment donné, Dieu va recréer des choses visibles, parce qu'il va y avoir un nouveau ciel, une nouvelle terre, ça ne sera pas tout invisible. Mais qu'est-ce qu'on voit actuellement va être détruit. Mais les choses invisibles, qu'est-ce qu'on ne voit pas, ça va durer toujours. Et moi, je ne juge pas le jeune homme riche parce que moi, je voulais savoir qu'est-ce qui se passait après la mort. Je demandais à Dieu, montre-moi la vie éternelle. Mais donc, je voulais savoir parce que je ne voulais pas passer à côté du ciel. Si le ciel existe, je voulais le savoir. Mais par contre, je voulais garder le contrôle de ma vie. Je voulais être sauvé, mais faire comme je voulais sur la terre. Je ne voulais pas faire rire de moi, je ne voulais pas me continuer à prendre un petit coup, je voulais être quelqu'un d'important, l'orgueil de la vie, tout ça. Mais j'ai compris que je ne pouvais pas avoir les deux. Tu m'as montré, si tu me veux, c'est moi ton trésor. Et sur la terre, il faut que tu renonces à ta vie. Donc, je ne pouvais pas vivre à ma façon sans Dieu et avoir la vie éternelle. Jésus nous promet un trésor, mais seulement au ciel. Mais sur terre, il demande notre plus grande sécurité. Donc Jésus nous demande de nous confier. Ça ne veut pas dire que si on n'a pas beaucoup de biens sur la terre, si on a des épreuves, que oh, ça va être juste au ciel que ça va être réglé. Non, Jésus prend soin de nous sur la terre. Et je suis certain que le jeune homme riche, il aurait été vraiment béni sur cette terre s'il avait donné sa vie à Jésus pour le suivre. Nous lisons dans Matthieu, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est ça le problème du jeune homme. Son trésor était sur la terre et son cœur était sur la terre. Donc c'était le Dieu qu'il y avait devant le vrai Dieu. Quand le premier commandement disait, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et qu'est-ce que je dis, on en parle de l'argent, on parle du matériel, mais ça implique pas seulement ça, ça implique aussi tous les plaisirs que va nous offrir le monde. Donc, un trésor sur terre, c'est tout ce qu'on chérit, tout ce qui passe avant Dieu. Ça peut être ma réputation. Ça passe avant Dieu. Parce qu'on peut dire, si je suis croyant, puis je m'affiche, on va dire que je ne suis pas intelligent. Tu sais. Donc, ma réputation peut passer avant Dieu, avant mon besoin de le suivre. Ça peut être mes amis qui passent avant Dieu. Ça peut être une dépendance qui remplace le bonheur que seul Dieu peut me donner. Donc, ce n'est pas nécessairement l'argent. Tout ce qui est une idole dans ma vie. Nous continuons le texte au fur et à mesure, verset 23. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ah! Pourquoi c'est plus difficile au lieu d'être plus facile? C'est parce qu'un riche a un faux sentiment de sécurité. Il ne se sent pas malheureux et il pense qu'il peut se passer de Dieu. Et quand Jésus a dit ça, qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux, les disciples ont été étonnés. Verset 24, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, parce que je vous ai dit que quand quelqu'un était riche, ça présumait que c'est une bonne personne. Okay? Donc, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ouais. Les disciples, eux, avaient tout abandonné. Ils ne comprenaient pas cette affaire-là. Le riche était censé, lui, être béni de Dieu. C'est le contraire que Jésus disait. Donc, il leur dit, un riche, là, c'est aussi pire qu'un riche a sauvé qui rentre par le trou d'une aiguille, un chameau. Ici, on a au verset 24, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parle ainsi. Verset 26, les disciples furent encore plus étonnés parce qu'il avait dit qu'il fallait qu'ils passent par le trou d'une aiguille. Ils se dirent les uns les autres, mais qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Donc, riche ou pauvre, Dieu peut sauver. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Mais il était très étonné parce que un riche, normalement, aurait dû être sauvé. Je vais continuer la lecture. Verset 28. Pierre lui dit, « Voici, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, eux autres, ils ont tout quitté. Comme le jeune homme riche, Pierre avait laissé son bateau, son travail, etc. Il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, me reçoivent au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Donc, on pensait que les premiers, ce seraient les riches, mais non, ils vont être les derniers. Et Jésus nous dit que si on abandonne ces choses-là, il va nous les redonner. Donc, n'ayez pas peur, faites-moi confiance. Et jeune homme riche n'a pas écouté ça, lui, il était déjà parti. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, je savais que j'aurais du rejet, je perdrais des amis, ma relation serait plus pareille avec mes frères et mes sœurs. J'aurais pu mentir pour me sortir d'embarras ou perdre moins d'argent ou en faire plus. Mais Jésus, il m'a tout redonné, des amis, des frères, des sœurs de confiance. Il pourvoit mes besoins financiers. Même si j'ai eu des périodes qui ont été plus difficiles, Jésus a toujours pourvu. Il m'a même donné une terre, l'amour de Dieu. Et avec des persécutions, c'est un peu drôle, hein? Il dit, je vous redonne tout, mais avec des persécutions, ça, on l'a. C'est sûr qu'on n'est pas persécuté ici en Amérique du Nord comme certains le sont, mais on peut faire rire de nous autres. Des gens qui pensent qu'on n'est pas intelligent pour on est crédule, etc. Donc, mais Jésus l'avait promis. C'est normal. Et il y a des gens qui ont tout abandonné pour suivre Jésus. Dans Acte 11, dans Hébreu 11, on lit qu'Abraham avait tout abandonné parce qu'il attendait la cité qui a de solides fondements, la cité de Dieu. Et Moïse, qui a abandonné les plaisirs et les trésors d'Égypte, Il dit qu'il regardait l'opprobre de Christ comme plus grand que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc, si on a les yeux fixés sur la récompense, ça nous aide à avoir une meilleure perspective et tous nos problèmes, tout ce qu'on quitte, qu'on manque, ça devient plus relatif. Et le dénominateur commun de Moïse et d'Abraham, c'est qu'il avait les yeux sur la cité céleste, là où Jésus habite. C'est une réalité. Et la seule chose que je ne dois pas manquer, c'est la vie éternelle, c'est Jésus. Donc, la seule peur qu'on devra avoir, c'est la peur de ce qu'on peut appeler l'exclusion éternelle, d'être privé de la présence de Dieu pour l'éternité. Donc, c'est une chose qu'on ne doit pas manquer, c'est d'être prêt au retour de Jésus lors de l'enlèvement. Est-ce qu'il y a des choses que sur terre je ne pourrais pas faire? Il y a tellement de possibilités qui sont offertes, on voudrait tout faire. Je ne pourrais jamais tout faire ce qu'il y a sur la terre. Okay? Je ne pourrais jamais tout posséder. Même si on me fait miroiter que je dois avoir plein d'affaires pour être heureux. Parce qu'on vit dans une société de consommation où il y a beaucoup de confort, puis on nous dit qu'il faut que je manque de rien pour être heureux. La publicité martèle que je dois faire ça. Et la société offre beaucoup de possibilités. Dans le temps des apôtres, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'avion, il y avait plein d'affaires, on ne pouvait pas voyager. Mais si on regarde trop aux choses qu'on manque sur terre, on veut manquer de rien, on risque de négliger l'essentiel. Et certaines pratiques de marketing utilisent la peur de manquer quelque chose pour nous vendre. Jésus disait qu'il n'y avait même pas une pierre pour reposer sa tête. Donc, il fonctionnait avec les gens qui l'invitaient chez lui, les dons et tout ça pour vivre. Donc, la peur de manquer des choses sur terre nous détourne notre attention de Jésus. Il y a une phrase ici, je l'ai mis en jaune, je ne sais pas si vous pouvez lire. Oui. Le ciel est la réponse de Dieu à tout ce que nous avons manqué sur cette terre. Comme j'ai dit, sur terre, vous n'aurez pas tout. Vous allez manquer des choses. Ça peut être la santé qui va vous manquer. Ça peut être un conjoint. Ça peut être que vous allez manquer d'avoir des enfants. Peut-être que vous êtes pauvre, vous voulez être riche, mais vous allez... Pensez pas, vous allez manquer plein de choses. Et on a plein de pourquoi. Pourquoi moi, pourquoi lui et ça, pourquoi. Mais la réponse de Dieu, c'est le ciel. Le ciel, là, les choses que vous manquez là, c'est pas grave. Comparé au trésor merveilleux qu'il y a, que je réserve pour vous, la place que je suis en train de vous faire au ciel, place magnifique dans ma présence, c'est rien ce qu'on va manquer sur terre. Et de nous, préoccupons pas de tout ce qu'on manque, tout ce qui nous est offert. Donc, la réponse de Dieu à tout ce qu'on manque, pourquoi, c'est le ciel. Donc, si vous vous rappelez de ça ce matin, là, c'est déjà beaucoup. Et toutes les fois que vous allez dire, « Ah, Seigneur, pourquoi il manque telle affaire? » C'est vrai. Dieu me répond, « Le ciel. » Et l'apôtre Paul disait, « Qu'est-ce qu'on vit actuellement? Les petites souffrances, c'est rien comparé à la gloire à venir qui nous est réservée. C'est rien. » L'apôtre Paul disait, même je regarde toute chose comme une perte. Donc tout ce qu'on peut gagner sur la terre, pour lui c'est une perte. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc Christ est tellement grand, tellement merveilleux, que toutes les autres choses que nous offre le monde, Paul regarde ça comme de la boue, même si c'était des choses importantes. Et la première peur de manquer quelque chose, c'est dans le jardin d'Éden. Notre mère et notre père Ève, et Ève, le Satan lui aura proposé une bonne affaire. Si tu manges du fruit défendu, tu vas être comme un dieu. Wow! Il ne faut pas que je manque ça, je vais être comme un dieu. Donc, pour ne pas manquer ça, elle a désobéi à Dieu et le péché est entré dans le monde. Donc, c'est un mensonge. Donc, la peur de manquer des choses, bien souvent, c'est un mensonge. Et avec Ève, ça a marché. Et avec nous, ça marche trop souvent, malheureusement. Verset ici, je crois que Justin l'avait cité il y a deux semaines. Marc 8, 20, 35. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Donc, on ne perd pas notre vie pour rien. C'est à cause de Jésus et de la bonne nouvelle, mais on va la sauver. Et je dirais... On donne notre vie à Jésus, mais on la gagne. Si je n'étais pas sauvé, peut-être que je serais mort aujourd'hui à cause d'une vie déréglée. Donc, on a une vie meilleure avec Jésus, plus riche, plus profonde, et on ne vit pas en surface dans nos relations et dans la vraie vie. Donc, on peut être des vraies personnes à cause de Jésus. Et le fait qu'on le donne à Jésus, oui, je crois qu'il nous donne une vraie vie sur la terre, la vraie vie qu'il a prévue pour nous. Et en plus, on a la vie éternelle. Dans certains milieux évangéliques, on prêche un évangile bonbon. On dit, donne ton cœur à Jésus, puis Jésus va être un plus dans ta vie. Continue à vivre comme tu veux, mais va à l'église, fais une religion. Ça, c'est un plus là, que tu vas avoir. Tu vas en avoir besoin quand tu vas mourir. Non. Jésus, il veut nous faire comprendre qu'il y a un prix élevé pour le suivre. C'est pour ça qu'il a dit au jeune homme riche, laisse tous tes biens. Et qu'il nous dit aussi, si tu veux sauver ta vie, tu vas la perdre. Donc, Jésus ne veut pas qu'on croie qu'on est sauvé alors qu'on ne l'est pas. C'est pour ça qu'il nous explique, mais là-bas, élevé pour qu'on comprenne. Comme dans Hébreux, on lit, redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, elle est valable aujourd'hui, la promesse d'entrer dans le repos de Dieu, que l'un de vous ne semble rester en arrière. Donc, j'aimerais pas qu'il y en ait aucun de nous qui soit resté en arrière, mais qu'on s'approprie la promesse d'entrer dans le repos de Dieu. En reconnaissant nos péchés, en acceptant Jésus, demandant à Jésus de nous pardonner, de nous sauver. Comme croyant, je dois être sur mes gardes, veiller et prier, disait Jésus, pour ne pas m'attacher à tout ce que m'offre la société. Et je parlais tantôt de la peur de manquer, FOMO, et ça vient surtout à cause de la dépendance aux réseaux sociaux. Peur de manquer quelque chose. Nouvelle sur Facebook ou Instagram avec mes amis. Il ne faut pas que je manque ça. Ah, tu n'es pas au courant de ça? Ben non. Et ça crée presque une angoisse chez certaines personnes de rien manquer. D'avoir toujours le téléphone intelligent à portée, puis la moindre sonnette, on saute dessus. Je ne suis pas contre ces choses. J'utilise Facebook pour communiquer avec mes filles, WhatsApp, etc. Avec ma famille aussi. Donc, c'est utile, les nouvelles. Mais avec l'utilisation croissante d'Internet et des réseaux sociaux, c'est ça, il y a comme une dépendance psychologique à être en ligne. Même on demande aujourd'hui si on devrait interdire les téléphones intelligents dans les classes, parce que c'est très, très dérangeant. Donc, c'est pas mauvais en soi, mais l'usage excessif peut devenir une dépendance. Et lorsqu'on est habitué à partager des nouvelles juteuses sur Internet et on essaye d'en prendre aussi, on oublie la meilleure nouvelle, la bonne nouvelle. Et ça peut être une distraction de Satan qui peut nous détourner de l'Évangile, qu'on s'intéresse à plein d'autres choses, qu'il y a tellement de choses à savoir, on ne veut rien manquer. On peut manquer le principal, c'est-à-dire parler de Jésus, développer une intimité avec Jésus. Le diable est rusé. Il peut nous empêcher de témoigner par la persécution. On ne vit pas ça ici, mais dans certains pays, oui. Mais pour nous ici, qu'est-ce qu'il fait? Il nous distrait. Il s'arrange pour qu'on soit occupé et préoccupé par d'autres choses au lieu de suivre Jésus. Donc, si Jésus n'a pas le contrôle dans ma vie, je vais passer à côté de l'occasion de le suivre intimement, de le servir, de le glorifier. Dernière citation ici, M. Raphaël Charrier, dans le livre « Vivre pour Jésus ». Tu vis dans une société qui est déçue de tout, c'est vrai, hein? Beaucoup de déceptions, devenue sceptique envers les religions, les idéaux politiques, le progrès. Ce désenchantement produit paradoxalement une fuite en avant à la recherche de la prochaine tendance à laquelle se vouer, qui finira par décevoir. Donc, on est déçu de tout, et on cherche un sens à notre vie, on cherche des nouvelles choses. Et un coup qu'on l'a, ah ben, c'est encore un mirage, on est encore déçu. Mais le seul qui ne nous décevra pas, c'est chercher Dieu, chercher Jésus. Donc, télévision, réseaux sociaux, films, tout ce qu'on a sur Internet entre en compétition avec Dieu, quoique il y a des bonnes choses là-dedans. Mais surtout au niveau du partage de mon temps et de mon attention. Et ça me détourne du principal. et je serai un chrétien tiraillé, malheureux. Donc, comment résister à la tentation, puis donner à Dieu la place qu'il doit dans ma vie? Monsieur Chambers, Oswald Chambers, lui, il disait, c'est le pouvoir de l'exclusion. Je n'ai pas obligé de vous rappeler de ça. C'est remplacer le péché et la tentation par autre chose. Je vous donne un exemple. Comment on fait pour enlever l'air dans un verre vide? C'est impossible. La seule chose, c'est de le remplir d'eau. Si on le remplit d'eau, l'air va s'en aller naturellement. Et comment faire pour enlever les mauvais désirs, les tentations de notre cœur? C'est de le remplir d'autre chose, remplir du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous lisons dans Éphésiens 5, 18, « Soyez remplis de l'Esprit. » Donc, si on est rempli de l'Esprit, qui va nous révéler Jésus, notre cœur va être bouillant pour Jésus. C'est ça qui va y avoir en dedans de nous. Et les tentations vont avoir beaucoup moins d'impact. On va en avoir encore parce que le diable continue à nous bombarder. Mais on va en avoir encore, mais ça va être plus facile de résister parce que notre cœur va être rempli, non pas des idées du monde, mais va être rempli de notre désir de connaître Jésus davantage. Et son esprit va être là et il va prendre la place. Et ce n'est pas une fois pour toutes. C'est sûr qu'on est sauvé, le Saint-Esprit est dans nous. On l'a, le Saint-Esprit est dans nous, on est sauvé. Mais pourquoi l'apôtre Paul disait « Soyez remplis de l'Esprit » et le verbe qu'il envoie, c'est « constamment rempli », dans le sens comme l'eau qui coule. Il faut que ça rentre tout le temps. Parce que sans ça, comme si on était plus vide. Des fois, on se sent loin du Seigneur, vide. Demandons au Seigneur qu'il nous remplisse de l'Esprit. Dernière citation, M. David Platt, dans son livre « Suis-moi ». Nous ne vaincrons pas le péché en travaillant d'arrache-pied pour transformer nos actions, mais plutôt en faisant confiance à Jésus qui transforme nos affections. J'avais déjà parlé de ça, donc je ne peux pas dire « Ah, il faut résister au péché. » Non. Confions-nous à Jésus, recherchons Jésus, et lui, il va le faire en nous. Donc, il est impossible d'obéir à Jésus par nos propres forces. Et il est impossible aussi de lui obéir. Et c'est pour ça que Jésus a dit, « Suis-moi. » Si je suis Jésus, si je le recherche de tout mon cœur, lui, il va rendre ça possible en moi. Donc, je vous invite, en toute humilité, à lui avouer votre incapacité à lui obéir comme il la demande. Moi, le premier. Je vous invite à lui demander sincèrement de vous remplir du Saint-Esprit. Lui abandonner tous vos droits. Lui donner, je ne vous demande pas de donner tous vos biens, et lui donner tous vos droits sur vos biens, qu'il fasse ce qu'il veut avec. Soit les donner et les utiliser pour son œuvre. Si vous voulez, on va prier. Peut-être l'équipe de louange peut approcher. Notre Dieu, nous avons vu l'histoire triste d'un jeune homme qui a refusé de t'abandonner sa vie pour garder sa vie sur terre, et d'un jeune homme qui se croyait religieux, sauvé à cause de ses apparences. Un homme qui se croyait irréprochable. Et Seigneur, on sait que ce n'est pas notre bonne vie qui nous sauve, mais c'est toi, Seigneur. Nous sommes pécheurs perdus malgré toutes les apparences. Et notre Dieu, on te prie de sonder nos cœurs, de nous révéler qu'est-ce qu'il y a dedans. On te prie, Seigneur, de nous remplir de ton esprit, afin qu'on puisse te voir davantage clairement, que tu sois, Seigneur, notre trésor, notre plus grande joie. Seigneur, on ne veut pas être des chrétiens en apparence, on veut que nos cœurs soient attachés à toi. Donc, remplis-nous du Saint-Esprit, éclaire-nous les yeux de nos cœurs, éclaire-nous sur les vrais enjeux de la vie, car la vie, elle est courte. Préserve-nous des mensonges de l'ennemi qui veut nous faire douter. Seigneur, nous voulons te connaître davantage, et Seigneur, que nous soyons toujours conscients que le ciel est la réponse de Dieu à toutes nos souffrances, tout ce qui nous manque. On prie dans le nom de Jésus. Amen.